Et à répondre à cela, qu'est-ce que la vie pour vous? Donc ma question s'adresse bien sûr presque principalement à tout le monde, mais principalement aussi aux chrétiens, ou à ceux en tout cas qui professent de l'être. Imaginez vous devoir répondre à cette question de manière la plus précise, la plus concise qui soit, voilà, la plus condensée qui soit en une phrase. Qu'est-ce que vous diriez pour exprimer cela? Qu'est-ce que la vie pour vous? Voilà. Si vous dites, par exemple, pour moi, vivre, c'est... Qu'est-ce qui vient derrière le c'est? C'est une question qui est importante pour chacun d'entre nous. C'est une question qui nous montre comment, quelle est notre perspective de la vie. Alors, si vous avez lu... l'épître de Paul aux Philippiens, si vous connaissez un peu le texte que nous allons voir, vous allez peut-être dire tout de suite, mais pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort, mais un gain. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous, quand nous le disons? Nous voulons voir donc ce que ça voulait dire, en tout cas en partie, pour l'apôtre Paul. Et donc nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 1, à partir du verset 18. Philippiens chapitre 1, et à partir du verset 18, je commence à la fin du verset 18, hein, où l'apôtre Paul dit « Je m'en réjouirai encore, car je sais, verset 19, que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien. » Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous approchons de ta parole et nous sommes conscients de nos incapacités, de nos faiblesses, mais nous voulons que par ton esprit, tu illumines nos cœurs et que cette parole résonne en nous, que nous la comprenions et surtout que nous agissions de manière conforme à ta parole et que nous la mettions en pratique. Garde-nous, dirige-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Donc le titre de notre méditation ce matin, c'est la perspective biblique de la vie et de la mort. Si vous avez fait attention à ce texte, je crois que le thème de la vie et de la mort ressort un peu de cette section. L'apôtre Paul dit « Je sais que cela tournera à mon salut. » Il dit « Selon ma ferme attente et mon espérance, honte de rien. » Et maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort. Et puis il dit, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive, encore il parle de la vie dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, c'est-à-dire de vivre ou de mourir. J'ai le désir de m'en aller, de mourir et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, que je vive encore sur cette terre. Et je suis persuadé, que je demeurerai, que je resterai, donc je vivrai avec vous tous pour votre avancement dans la foi. Donc voilà, ici, on voit bien que ce qui ressort un petit peu, c'est ce thème de la mort et de la vie. L'apôtre Paul est en prison, il est à la fin presque de sa vie, et il souffre, il est enchaîné, et il écrit cette épître pour encourager les Philippiens. Et ce qui ressort de cette section que nous avons lue, c'est qu'il leur dit, qu'il leur donne sa perspective de la vie et de la mort. Je ne sais pas quelle est la nôtre et je ne sais pas comment vous avez répondu à cette question. Qu'est-ce pour vous que la vie ? Bien, l'apôtre Paul répond ici de manière très claire. Il dit aux Philippiens que tout ce qui lui est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Il dit qu'il sait que tout ce qui se passe de sa vie tournera à son salut, qu'il a une ferme espérance. Il sait que Christ sera glorifié, soit qu'il vive, soit qu'il meure dans son propre corps. Et il dit, pourquoi est-ce que je sais tout cela ? Il donne la raison, verset 21, et je crois que c'est là la substance, le noyau de ce passage, peut-être même de l'épître aux Philippiens. C'est verset 21, il dit, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Alors, je ne sais pas si on aurait résumé comme ça notre perspective de la vie. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. D'autres traductions disent comme cela, ils disent, car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. Il semblerait que dans le texte original, il n'y ait même pas de verbe. Donc on a ajouté des verbes pour qu'on puisse bien le comprendre ici. Mais par exemple, la traduction d'Arby dit, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. Et d'autres traductions disent, ma vie, Christ, il paraît que c'est ça le plus littéral, mourir, un gain. Donc, vous voyez comment Paul a résumé, a condensé un petit peu cela pour exprimer sa raison de vivre en tant que chrétien. Mais ce que Paul dit ici, il ne le dit pas en tant qu'apôtre, parce que nous, quand nous lisons les épîtres de Paul, on dit « ouais, ben, c'est un apôtre, voilà, il a un ministère particulier ». Je crois que ce qu'il dit, il le dit en tant que chrétien, comme la plupart des choses qu'il dit. D'ailleurs, quand il parle à cette église, quand il écrit… Il n'a pas dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il a dit Paul et Timothée, serviteur de Jésus-Christ. C'est en tant qu'esclave même de Christ, le serviteur de Christ qu'il leur écrit. Et ce qu'il dit est important pour nous à considérer et à imiter, parce que dans cette même lettre aux Philippiens, il invite les Philippiens à imiter, au chapitre 3, il leur demande d'être, soyez mes imitateurs. Et c'est dans toutes ces choses, c'est dans sa conception même, je crois aussi, de la vie chrétienne qu'il veut qu'il soit ses imitateurs. Donc on voudrait voir ici, ce matin, premièrement que la vie du chrétien, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est une relation exclusive avec la personne de Christ. Une relation, je pourrais bien dire, personnelle, exclusive avec la personne de Christ. L'apôtre Paul dit, car pour moi, vivre, c'est Christ. Voilà, si on veut résumer, et quand il parle pas d'une philosophie de vie, hein, il parle pas de quelque chose, voilà, de concept particulier, il parle du fait de vivre, de son existence, du fait de vivre chaque jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, vivre, c'est Christ. Et donc, c'est le résumé le plus, je crois, irréductible que Paul fait de ce qu'il considère être la vie, sa propre vie, mais en tout cas la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, on voit que il établit ici un lien avec la personne de Christ. Il fait un lien entre la vie et la personne de Christ. On définit parfois la vie chrétienne comme un certain nombre de choses à faire. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Ben, la vie chrétienne consiste à lire la parole de Dieu, à avoir un culte personnel, à prier, à chanter, à aller au temple, à se rencontrer avec d'autres chrétiens, à évangéliser, à prêcher. Et toutes ces choses, bien sûr, font partie de la vie chrétienne. Mais est-ce que c'est là la substance même de la vie chrétienne? Paul dit, pour moi, vivre... Il ne dit pas, c'est fonder des églises, c'est voyager à travers le monde pour évangéliser. Quand il écrit aux Philippiens, il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est une personne. Vivre, c'est avoir une relation particulière, personnelle, avec la personne de Christ. Et puis, remarquons ensuite le caractère un peu exclusif de cette relation. dit pas pour moi vivre c'est Christ et c'est quelque chose d'autre. C'est Christ et uniquement Christ. Christ de manière exclusive ici. Donc en disant Christ, que Christ est ma vie, l'apôtre Paul veut signifier par là que Christ seul suffit à qualifier sa vie de chrétien. Christ seul suffit à expliquer sa vie même en tant que chrétien et en tant qu'apôtre aussi. Il devait en être de même pour tout chrétien. Ce qu'il dit là n'est pas l'apanage seulement des apôtres, des prophètes, des docteurs, c'est pas, mais ce doit être le lot de tout chrétien. Quand il écrit, par exemple, à l'église des Colossiens, il dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra ». Et là, il écrit à tous les chrétiens. Il dit « Christ, c'est votre vie ». Alors, il dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire ». Donc, le chrétien, tout chrétien véritable, doit pouvoir dire aussi « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Pour moi, vivre, c'est Christ. Mais est-ce que c'est le cas réellement? Christ est la source exclusive de la vie du chrétien. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et on voit là cette relation étroite qui est encore avec Christ. Et il définit sa vie par la vie de Christ. Christ est la source même de sa vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans Jésus-Christ. On peut avoir des activités dites chrétiennes sans Christ. Mais il n'y a pas de vie véritablement chrétienne telle que l'Évangile le définit sans Christ qui en soit la source. On peut avoir une vie d'église sans Christ, mais pas une vie chrétienne véritable sans Christ. La seule et unique source de toute vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Christ est donc la source exclusive de la vie du chrétien. Il est aussi la cause exclusive de la vie du chrétien. Dans les versets précédents, on voit que Paul parle de la cause de l'Évangile. Il dit « Oui, je suis lié », il dit « Oui, je suis en prison, mais je veux que vous sachiez que tout cela a plutôt contribué au progrès de l'Évangile ». Il se réjouit lorsque, verset 18, il se réjouit lorsque Christ est prêché, même si Christ est prêché par des prédicateurs avec de mauvaises dispositions et de mauvaises motivations. Pourquoi ? Parce que Christ, c'est sa cause. Et donc, il va supporter la prédication même de personnes non motivées à partir du moment où la prédication est clairement évangélique, où ce qui est dit est juste. Christ est la cause de tout ce qu'il fait. Au chapitre 3, on a cela de manière très explicite. Regardez chapitre 3, Philippiens chapitre 3. Et à partir du verset 4... Il dit, il parle de choses dans lesquelles il aurait pu se glorifier. Et Philippiens 3, verset 4, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Il ajoute verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » À cause de qui ? À cause de Christ. « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Ici, il dit que Christ est la cause de tous ses choix, et la cause de la valeur qu'il attribue aux choses. Oui, l'apôtre Paul ne parle pas en disant moi je fais ceci ou je fais cela parce que j'aime ça. On parle comme ça, nous arrivons de parler comme ça. Moi j'écoute ceci là parce que j'aime ça, c'est mon style. Paul ne dit pas qu'il abandonne ceci ou cela parce qu'il n'aime pas ça ou parce qu'il aime ça. Il dit j'ai abandonné ces choses pour une seule raison, à cause de Christ. C'est Christ qui détermine ce qu'il choisit dans sa vie. Et même les choses qui ne sont pas mauvaises, eh bien, il va penser ces choses, il va estimer leur valeur en regardant à Christ, à cause de Christ. Quand il dit, par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, qu'il ne mangera pas de viande à un moment, il dit que la viande, ça fait rien. Je mange de la viande, je mange pas de la viande, ça n'ajoute rien. Je suis pas plus proche de Dieu parce que je mange pas, je suis pas plus loin parce que j'en mange. Il dit, mais à cause de mon frère pour lequel Christ est mort, je décide, voilà, je mangerai plus jamais de viande. À cause de Christ. Et aussi de mon frère pour lequel Christ est mort. Et donc, on voit ici l'importance qu'il accorde à cela. Donc, quand il dit que Christ est ma vie, il dit que Christ est la cause de tout ce que je fais dans ma vie, de tous mes choix que je fais. Même le fait de supporter la souffrance, là, il dit c'est à cause de Christ. Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. C'est ce qu'il avait déjà dit quelques versets plus haut. Donc la vie chrétienne véritable, chers frères et sœurs, exige vraiment que Christ soit la cause de tout ce que nous faisons, de tous nos choix. Et puis quand il dit aussi cela, il dit, Christ est ma vie, on peut penser que ça veut dire aussi que Christ est l'objet exclusif de sa vie. Christ est l'objet exclusif, doit être l'objet exclusif de la vie du chrétien. En Romains chapitre 14, verset 8, nous lisons, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Christ est vraiment, dans l'esprit de Paul, central. C'est la cause pour laquelle il vit et c'est l'objet de toute sa vie. Il aime Christ. C'est par amour pour Christ qu'il agit ainsi. Et donc, relevons ici que quand il est dit que Christ est ma vie, c'est pas juste une formule, une citation, quelque chose qui sonne bien, qui résonne. C'est une réalité laquelle Paul veut exprimer que Christ est l'unique objet de sa vie. Si on veut réduire sa vie à la plus stricte intimité, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Christ. On le presse quand il est en prison, c'est Christ qui ressort. Il est dans la joie, c'est Christ qui ressort. Il est dans l'abondance, Philippiens chapitre 4, c'est Christ qui ressort. Sa vie, c'est vraiment une relation intime, profonde, personnelle et exclusive avec Christ. Et ce qu'il dit, ce que le Saint-Esprit permet qu'il dise ici, c'est une exhortation pour nous aussi, en tant que chrétiens. Ce doit être ainsi. Quand on dit que nous sommes chrétiens, bien nous devons pouvoir dire que je suis chrétien, c'est dire que pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et puis, deuxièmement, ici, il dit, s'il parle dans cette définition qu'il donne, on revient donc au verset 21, cette définition qu'il donne, il dit, car pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. On peut voir deuxièmement que dans la perspective biblique, la vie chrétienne, la vie est intimement liée à la mort. Paul n'a pas dit pour moi vivre c'est Christ, point. Il a ajouté, et je pense que ce n'est pas pour rien, ajouté que « et mourir met un gain ». La pensée commune oppose toujours la mort à la vie. La peur de la mort fait parfois les uns s'accrocher à la vie, et puis la peur des afflictions de la vie parfois font penser à d'autres que la mort enlèvera peut-être cette souffrance. Et d'ailleurs, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Souvent, au moins, il ne souffre plus. C'est ce que l'on dit. Ce n'est pas vrai, forcément, quand on connaît ce qui arrive après. Mais souvent, c'est ce que l'on dit, n'est-ce pas? On voit la mort comme quelque chose qui va... Voilà, au moins dans cet état, il ne souffre plus. Il ne souffre plus. Donc, on considère... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne considère jamais la mort comme un gain. On dit souvent, quand quelqu'un meurt, ah, c'est une perte. Ce qui reste, et c'est vrai que c'est une douleur, c'est une perte, on exprime les choses en tant que perte. Mais quand l'apôtre Paul, en tant que chrétien, parle de sa propre mort, il dit... Christ est ma vie, et le corollaire à cela, on pourrait dire, c'est « et la mort met un gain ». La mort met un gain. En fait, le croyant ne peut pas dire que vivre, c'est Christ, et considérer la mort autrement que Paul la considère. Si je dis « Christ est ma vie », mais la mort, ah non, ça je peux pas accepter, ça veut dire que Christ n'est pas vraiment notre vie. Les deux parties de la déclaration de Paul se tiennent entre elles et elles vont ensemble. Et tous les efforts humains, n'est-ce pas, sont pour enlever même l'idée de la mort. On parle de la mort en termes, je dis tout à l'heure, de perte et non de gain. On trouve d'autres mots pour la qualifier. Il y a des gens qui refusent même de l'accepter. Quand le chanteur national est décédé il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un vieux monsieur qui disait « Je n'arrive pas à le croire ». Il dit « Non, ce n'est pas possible, je n'arrive pas à le croire. Pour moi, il est là. » C'est quelque chose que les gens, et je comprends un peu ce que cet homme voulait dire, les gens n'acceptent pas. Oui, mais il était malade, il était âgé, ça paraît naturel. Mais pour lui, non. Pour lui, il dit « Je n'arrive pas à l'accepter, ce n'est pas possible ». C'est pas possible. Je me dis que je suis en train de rêver. Pourquoi? Parce que les gens rejettent un petit peu cette idée de la mort. On a peur un petit peu de cela. Parfois même les chrétiens, en tant que chrétiens, on a une idée un peu confuse, on a une peur, des craintes qui sont parfois dues à un manque de connaissance de ce que la Bible dit à ce propos. Un auteur je crois que c'était 19e siècle, Adolphe Monod, qui dit, français, il dit ceci, il était sur son lit de mort, lui. C'était un serviteur de Dieu, et étant sur son lit de mort, il faisait venir des étudiants, des gens avec qui il parlait, et puis il y a un livre qui s'appelle « Les adieux » d'Adolphe Monod, dans lequel il les entretient sur différents thèmes bibliques. Et à un moment donné, il parle de ce passage de Philippiens. Il dit, pour Paul, la vie est bonne et la mort est bonne. Il dit « La mort est bonne car elle nous affranchit des misères de cette vie et surtout parce que la vie fut-elle pleine pour nous de toute joie que la terre peut donner, la mort nous fait entrer dans une joie et une gloire dont nous ne pouvons avoir, nous pouvons nous faire aucune idée. » Il dit « Nous devons donc considérer la mort comme une chose désirable en soi. » C'est un peu... surpris par cette manière de dire, mais il dit « N'éloignons pas de nous ce qui peut nous la rappeler. Que toutes les maladies, toutes les morts subites, que tout ce qui se passe autour de nous, nous rappelle que pour chacun de nous, elle peut venir d'un moment à l'autre. » Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort. C'est vrai qu'on a tendance à écarter. Il dit « Mais pour Paul, il a mis les deux pareils. Vivre ou mourir, il a mis les deux choses sur... le même pied d'égalité. C'est pas l'un et contre l'autre. C'est pas l'un, c'est la fin de l'autre. Il dit, moi, si on me demande, c'est ce qu'on a lu, il dit, si je devais choisir, je sais même pas ce que je dois choisir. Il dit, je laisse Dieu choisir pour moi, mais là où là, les deux me vont. Il dit, vivre, c'est un gain parce que je vais pouvoir servir Christ pendant que je vis, et puis mourir, c'est un gain parce que je vais pouvoir être avec Christ aussi. Alors, bien sûr, ça c'est meilleur, mais si Dieu veut que je reste ici, eh bien, je resterai. Et j'ai trouvé aussi une résolution. Il y a un homme qui s'appelle Jonathan Edwards, grand théologien en Amérique, Il a été un peu à l'origine de Grand Réveil et vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà lu l'un de ces fameux messages qui s'intitule « Le pécheur entre les mains d'un Dieu en colère » qui a amené beaucoup de gens à se tourner vers Christ. Il a écrit, il avait une vingtaine d'années, à peu de temps après sa conversion, 70 résolutions. Parce que vous avez déjà lu, j'en ai lu quelques-unes, pas toutes, mais il a écrit 70 résolutions pour l'aider à mener une vie chrétienne comme le Seigneur le veut. Et la neuvième résolution dit ceci. Il dit « Je suis résolu à réfléchir davantage en toute occasion sur ma mort et sur les circonstances communes qui l'accompagnent. » 20 ans. Il dit « Je veux réfléchir sur ma propre mort et à toutes les circonstances qui peuvent l'accompagner. » Et Paul, je crois qu'il a fait ça. Il réfléchit sur sa mort et il dit « Vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. » La réflexion sur la vie chrétienne va de pair avec la réflexion sur la mort. Pour que la mort soit un gain, il faut que Christ, bien sûr, soit l'objet de la vie. Mais quand Christ est l'objet de la vie, la mort doit être considérée aussi comme un gain. Quand nous disons que Christ est ma vie, nous devons aussi considérer que la mort est un gain. Et donc, la question que je vous pose ce matin, que je nous pose, c'est considérons-nous à cet instant présent la mort comme un gain? Est-ce que nous pouvons dire, peut-être nous disons facilement, Christ est ma vie, mais est-ce que nous pouvons ajouter, et la mort m'est un gain? Si le Seigneur nous disait, comme il a dit à Ézéchias, prépare-toi car tu vas mourir incessamment sous peu. Est-ce qu'on dirait, oh, quelle grâce, Seigneur. J'attendais ce moment. Ou est-ce qu'on demanderait une rallonge comme Ézéchias? Quelle réponse apporterions-nous au Seigneur si il nous disait cela? Est-ce qu'on dirait, non, Seigneur, attends, j'aimerais bien me marier quand même. J'aimerais savoir ce que c'est que vivre, avoir des enfants. Ou peut-être dirons-nous, attends Seigneur, je suis sur le point d'être grand-père et j'aimerais quand même avoir cette grâce de voir mes petits-enfants. Je sais que c'est bien d'être au ciel avec toi, je sais que c'est ce qu'il y a de meilleur, mais quand même, ça c'est quand même, c'est la vie aussi. Hein. Je ne sais pas comment nous répondrions. Je sais que des fois, je me dis, oh, j'aimerais bien avoir ça, hein, vivre cette situation. Mais Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et même lorsqu'il dit qu'il peut vivre encore sur la terre, il dit pas, il ne présente jamais la chose comme par rapport à lui-même. Il dit, s'il est utile pour mon œuvre que je reste, mais il parle pour l'Église. Afin que l'Église continue à grandir, ça c'est une chose. Mais pour lui-même, c'est pas un confort, c'est pas comme s'il disait « j'ai envie encore d'implanter des églises, j'ai envie de voir des... » Non, il dit « si Dieu décide que c'est utile que l'Église croisse par son témoignage ou par le fait qu'il soit juste libéré, que ça leur accorde une joie particulière, pas de problème, il le fera. » Mais il dit « mais pour moi, pour ce qui est de moi, il dit bien, pour moi, vivre c'est Christ, mais la mort m'est un gain et je préfère de loin être auprès du Seigneur. » Ça, c'est de loin le meilleur. Mais quand nous ne sommes pas prêts à dire ça, je crois que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts non plus à dire « Christ est ma vie ». Si on n'est pas encore prêt à dire « la mort m'est un gain », pour une raison ou pour une autre, et je le dis en pensant à moi-même, c'est parce que peut-être que on n'a pas... Il y a encore des choses qui sont à côté de Christ dans notre vie, que nous voulons et que nous pensons, si nous n'avons pas ces choses-là, nous n'avons pas tout à fait vécu comme il faut. Ça veut dire que Christ, nous pensons que nous n'avons pas tout pleinement en Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le disait. La réalité de vivre, c'est Christ, se mesure dans notre capacité à considérer la mort comme un gain. Les versets 22 et 23 de notre passage nous montrent que C'est Christ vraiment qui est l'objet de l'apôtre Paul, à la fois dans la vie et dans la mort, et qu'il ne souhaite vivre que pour servir le Seigneur en servant l'Église, et non jouir du confort que peut lui apporter la vie terrestre. Il ne souhaite mourir que pour être avec le Seigneur. En fait, ce qui l'intéresse, c'est soit vivre avec le Seigneur par la foi sur la terre, soit vivre avec le Seigneur en le voyant dans le ciel, être avec lui. Mais dans les deux cas, s'il n'y a pas Christ, il veut, ça ne l'intéresse pas. C'est Christ qui l'intéresse. Et pas le confort de la vie sur terre. Et ce prédicateur Monod résume ainsi la pensée de Paul, ce verset 21. Il dit, ce que Paul dit en substance, c'est « Pour moi, la vie n'a qu'un seul objet, le service de Christ, et la mort m'est un gain, car elle me réunit à Christ. » Il résume un peu, il paraphrase un peu le verset 21 comme cela. Il veut être là où Christ le veut. Et il ne fait le choix entre la vie et la mort quand il fait ce choix-là. En fait, disons qu'il ne fait pas de choix entre la vie et la mort, mais il se pose la question en termes d'utilité. S'il est plus utile pour mon œuvre que, il est plus, verset 23 ou 24, il dit, il est plus nécessaire que, verset 24, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure auprès de vous. Et donc, les choses sont pesées en termes d'utilité, de nécessité, mais pas en termes de choix propre par rapport à son propre confort. Alors pourquoi pouvons-nous dire que la mort est un gain? La mort est un gain car elle délivre définitivement le croyant du mal et du péché et de la présence même du péché. Et en ce sens, c'est un gain. La mort est un gain aussi car le croyant sera rendu semblable à Christ. C'est ça que nous sommes destinés à être, semblables à Christ. Et quand on passe par cette mort, bien, le processus, il est enclenché. Bien sûr, on attend encore la résurrection du corps, mais le chrétien sera transformé à l'image de Christ. 1 Jean 3, 2 dit, bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera, on sait qu'on sera semblable à lui, parce que nous le verrons. Et puis, la mort est un gain, car le croyant verra le Seigneur. On sera pour toujours avec lui. Et est-ce que ces choses nous réjouissent? Je me souviens d'une missionnaire, elle est toujours vivante, mais là, 92 ans. Déjà, quand elle était tout jeune avec nous, eh bien, son cantique préféré, c'était « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté ». Elle a dit « Le jour, je veux que vous chantiez cela. » Il dit, je suis prêt, il peut venir quand, il peut me prendre quand il veut. Bon, elle avait 40 ans peut-être quand elle dit ça, ça fait 50 ans qu'elle dit ça. Le Seigneur l'a préservée en vie, elle a toujours été célibataire, hein, jamais mariée, et elle a vécu pour le Seigneur toute sa vie. Et vraiment ce qu'on retient d'elle, c'était, viens Seigneur, tu peux me prendre quand tu veux, je suis prête. Mais en attendant, elle a toujours servi le Seigneur. La mort est un gain. Elle considérait la mort comme un gain. Parce que pour elle, elle serait pour toujours avec le Seigneur. Mais comment se manifeste, troisièmement, et puis dernier point, comment se manifeste cette réalité dans la vie? C'est une chose que de dire, pour moi, vivre c'est Christ, et la mort m'est un gain. Mais si on regarde la vie de l'apôtre Paul, on peut voir, au moins, avoir quelques idées de comment cela s'est manifesté dans sa vie. Premièrement, on voit qu'il était pleinement affranchi des circonstances. Quand on dit « Christ est ma vie, la mort m'est un gain », on n'est plus asservi aux circonstances. Martin Lloyd-Jones dit « En Christ, Paul a été délivré de la servitude des choses qui lui arrivent. » Il dit « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé m'a mis par terre. J'étais cassé, je peux plus, je suis fatigué, non, je peux plus là. » C'est pas comme ça qu'il parle, Paul. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, et il lui est arrivé des choses comme il ne nous est jamais encore arrivé. Il dit, je veux que vous sachiez que cela a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il dit, les gens, ils m'en veulent, ils veulent prêcher Christ pour me faire du tort, pour accentuer ma douleur. Il dit, mais c'est pas grave, s'ils prêchent Christ, Christ est prêché, alors je me réjouis. Je me réjouis de cela. Il dit, je sais vivre dans l'abondance, chapitre 4, et je sais vivre aussi dans la dans la disette. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Ça veut dire que disette ou abondance, ce n'est pas un problème pour lui. Pourquoi ? Parce que Christ est sa vie. Donc celui dont Christ est la vie, quand nous disons que Christ est notre vie, cela veut dire que nous devons être capables d'être détachés de l'impact des circonstances dans notre vie chrétienne. Ça ne veut pas dire que voilà, on n'est pas sensible à cela, mais ça veut dire que on ne se laisse pas abattre par des circonstances, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient entre guillemets malheureuses. On voit aussi la confiance de l'apôtre Paul, que tout cela va résulter dans son bien. Non seulement il n'est pas esclave des circonstances, mais il pense même que tout cela va conduire à un résultat positif dans sa vie. Regardez ce qu'il dit au verset 19. Il dit, car je sais que cela, et je crois que le cela ici se rapporte à tout ce qu'il a déjà dit avant concernant ces circonstances. Il dit, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et là, il cite, on pense qu'il cite ici le passage de Job 13 au verset 16. Hein, ici où Job dit à peu près la même chose. Mais l'apôtre Paul dit ici que tout ce qui lui est arrivé, il a la certitude. Il le sait que ces choses vont contribuer à son salut. Alors on peut penser à la délivrance finale du salut, mais on peut penser aussi, parce qu'il appuie cela sur la prière et l'assistance du Saint-Esprit, à une vie dans laquelle ces choses vont contribuer à sa sanctification aussi. Et il dit qu'il le sait, il sait que cela va arriver grâce à la prière des Philippiens et à l'assistance du Saint-Esprit. Cela nous fait penser au passage de Romains chapitre 8, verset 28, où l'apôtre Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les circonstances, qu'elles soient, que nous les qualifions bonnes ou moins bonnes, elles contribuent, que celui qui a Christ, dont Christ est la vie, eh bien, il n'est pas affecté par la nature des circonstances parce qu'il sait qu'elles contribueront, selon la parole de Dieu, à son bien. Et puis, on voit aussi la fermeté, cela se traduit, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain, se traduit par la fermeté de son espérance. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, je ne serai pas confus, je ne serai pas déçu. Il dit, mais maintenant et comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Donc, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Romains 1, 16, il disait, je n'ai point honte de l'évangile. Dans 2 Timothée 1, 12, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Hein? Il a une espérance en Christ qui n'est pas affectée et il garde cette espérance. Il dit qu'il ne sait qu'il ne sera pas confus, qu'il ne sera pas déçu et au jour de Christ, qu'il n'aura pas cru en vain. Notre passage, il dit, je sais qu'il a c'est le même passage, il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que la confiance que j'ai mise en lui, je sais qu'il va la garder et qu'il aura à la fin l'approbation de son Seigneur. Donc, je crois que cela permet de vivre quand on dit qu'on vit pour Christ, que la mort nous est un gain. Cela se traduit par une ferme espérance dans tout ce que Christ nous a dit dans sa parole et aussi dans l'assurance que l'on a qu'un jour, bien, nous serons avec lui. Notre espoir, notre investissement ne sera pas déçu. Et puis, quatrièmement, ça se traduit aussi par l'exaltation de Christ dans le corps du croyant. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, verset 20, il dit, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort. Christ sera glorifié, dit-il, dans mon corps. » La vie du chrétien doit magnifier, le mot ici glorifier, c'est magnifier Christ. Elle doit l'honorer, elle doit le glorifier, elle doit manifester sa grandeur, elle doit le sanctifier, elle doit le présenter comme grand. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas ajouter à la gloire de Dieu. On ne peut pas ajouter à la gloire de Christ, quoi que ce soit. Il est glorieux. Mais dans notre manière de vivre, nous pouvons manifester aussi cette grandeur, cette gloire, cette majesté, cette sainteté de Christ. Christ est ma vie doit se traduire donc par glorifier Christ dans tout ce que nous faisons. Si on pose la question suivante, comment Christ doit être glorifié? Nous répondons peut-être par notre adoration, par notre louange, par notre service, par notre témoignage, par notre engagement à l'Église. Tout ça, certainement. Et si on va plus loin, on dit, mais où Christ doit-il être glorifié? Peut-être nous dirons, ben, au temple, à la maison, et puis au travail. Mais l'apôtre Paul va beaucoup plus loin. Il dit ici, Christ sera glorifié dans mon corps. Christ sera glorifié, dit-il, dans mon corps. C'est dans le corps du croyant que Dieu établit son temple. L'apôtre Paul dit, hein, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Christ veut être glorifié dans notre propre corps. Ne savez-vous pas, disait l'apôtre Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à prix, glorifié donc Dieu dans votre corps. Donc, j'ai lu dans la version d'Arby, vous voyez. Vous avez été racheté à prix, glorifié donc Dieu dans votre corps. Pas dit dans le temple seulement, à la maison seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, partout où ce corps va se trouver, Christ devra être glorifié. Il n'y a pas de compartiment dans la vie du chrétien. Bah, j'ai ma vie d'église, j'ai ma vie professionnelle et j'ai ma vie familiale. Maison, hein. Avec les grèves, là, dernièrement, j'ai un homme qu'on interviewait qui dit, oui, voilà, je peux pas rentrer chez moi, mais il faut que les gens sachent que on rentre à la maison et on a une deuxième vie. Il comprend ce qu'il voulait dire. Il faut encore vivre encore une journée. Mais parfois, dans notre concept des choses, on cloisonne et puis on a la vie professionnelle et puis il y a la vie à la maison et puis il y a la vie spirituelle. Bon, le dimanche, c'est pour le culte. Si je peux faire un petit peu d'effort, le mardi, c'est pour l'étude biblique. Après, le reste, c'est la vie de tous les jours. Et donc, ouais, je viens le dimanche matin pour glorifier Dieu avec mes frères et sœurs. Et puis, en semaine, ben, il faut bien que je bosse, je fais comme je peux. D'accord? Et Dieu, on l'oublie pendant un temps, Christ, on l'oublie, et quand on revient le dimanche, on recommence. Et Paul dit, non, glorifier Dieu, c'est glorifier, dire que pour moi, vivre, c'est Christ, c'est glorifier Dieu dans notre corps, c'est-à-dire partout où nous sommes. Il n'y a pas de moment où nous ne sommes plus chrétiens. On n'est pas chrétien le dimanche et pas chrétien le lundi. Ça ne marche pas. On est chrétien tout le temps. Et à un moment donné, le frère Timothée, il est rentré ici, puis il m'a dit, bon, pasteur, puis c'était lui qui devait prêcher. J'ai dit, non, aujourd'hui, c'est toi le pasteur, c'est toi qui prêches. Il m'a dit, on est pasteur tous les jours. Quand on prêche ou qu'on ne prêche pas, on est quelque part. Bon, c'est une fonction, mais on est quelque part. C'est-à-dire, on peut pas dire, voilà, j'endosse une casquette et puis après je retire la casquette. On est chrétien tous les jours, d'accord. On sert Dieu tous les jours, d'accord. Et on est tous des serviteurs de Dieu à plein temps. Et la manière de l'être, c'est de glorifier Dieu dans notre corps. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que où que ce corps se trouve, Christ doit être glorifié, qu'il soit au temple ou à la maison. Et dans quelque activité que ce corps pratique, Christ doit être aussi glorifié. On ne peut pas faire tous ces efforts pour surveiller sa langue quand on est au temple et puis lui donner libre cours quand on est à la maison. Il doit aussi glorifier Dieu à la maison. D'accord. Et c'est, on ne peut pas... Voilà, garder nos yeux quand on est à certains endroits, quand on est avec d'autres, et puis après, quand on est tout seul, eh bien, les laisser balader n'importe où et regarder n'importe quoi. D'accord? Chaque minute, chaque seconde de notre vie doit glorifier Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il demande? D'offrir comme sacrifice. Est-ce qu'il dit, offrez comme sacrifice votre ordinateur? offrir. Alors bien sûr, on peut consacrer tout ce que l'on a au Seigneur. Ça peut devenir des instruments pour servir Dieu. Mais ce qu'il demande en premier, c'est quoi? Offrez-vous, je vais le lire, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant. Vos corps, ça veut dire tous les membres de votre corps. Ce que vous pensez, vos pensées, vos yeux, vos mains, où ils vont, ce que vous faites, chaque avec votre corps. Vous devez consacrer tout cela à votre Dieu. Comme un sacrifice vivant, il dit que ce sera un sacrifice saint, agréable à Dieu, et ce sera de votre part un culte raisonnable. Le culte ne consiste pas simplement à chanter ensemble. Le culte ne consiste pas à être là. Le culte consiste premièrement, le culte que Dieu agrée, à s'offrir soi-même et entièrement, c'est-à-dire tout notre corps, nos pensées, nos yeux, nos mains. Ça veut dire tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, notre langue, la manière avec laquelle nous allons le dire. Tout dans la vie du croyant doit être consacré à Dieu. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle toute la vie doit être consacrée à Dieu. C'est ainsi que Dieu, que la Bible conçoit la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans relation personnelle, intime, exclusive avec Jésus-Christ. Dans le secret, tous les jours de notre vie. Et cela se manifeste, en tout cas pour l'apôtre Paul, c'est manifesté comme ça, et pour nous, ça doit se manifester comme ce que nous venons de voir ici. Et je termine en disant, chers frères et sœurs, que nous devons nous poser la question de savoir sur quoi notre vie est centrée réellement. Pouvons-nous dire en toute sincérité, pour moi, vivre c'est Christ? Est-ce que nous pouvons dire cela en toute sincérité? Si tout le confort nous était ôté, si tout service que nous accomplissons à l'Église nous était enlevé, si la maladie vient à nous immobiliser, peut-être, pourrions-nous dire, pour moi, vivre c'est Christ? Ou est-ce que nous serions tombés dans la déprime? Il y a parfois des gens qui dépriment parce qu'ils ne font plus ce qu'ils pouvaient faire avant. Et cet homme-là, Monod, était sur son lit d'hôpital et il a servi Dieu étant couché en encourageant les autres. Il ne pouvait plus prêcher comme avant, il ne pouvait plus se déplacer comme avant. Mais pour lui, vivre c'était Christ. Et il était prêt à mourir. Il a servi Christ jusqu'au bout, même s'il n'a pas pu le servir de la même manière. Il a entretenu cette relation avec Christ. Si on nous enlève tout ce que nous faisons, la prédication, le chant, l'évangélisation, imaginez tout ce que vous faites comme service sur lequel vous êtes attaché. Eh bien, est-ce que nous allons sombrer dans la déprime ou est-ce que nous pouvons dire, Christ est ma vie, ça me suffit. J'ai une relation personnelle, intime avec lui. Cela me remplit complètement. Repentons-nous donc d'avoir mis notre joie ou en autre chose qu'en Christ et demandons vraiment à Dieu la grâce, chers frères et sœurs, de l'aimer, d'aimer Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. C'est lui que nous devons aimer et pas le service que nous devons aimer. Et puis je dirais aussi que la mort n'est un gain que pour ceux dont la vie est en Christ. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas Jésus-Christ, bien la mort ne peut pas être un gain. Même, ça va être une perte terrible. Quand quelqu'un décède, on dit, je l'ai dit tout à l'heure, on dit au moins il ne souffre plus, mais la Bible dit ça dépend. La Bible, elle dit ça dépend. Elle dit, s'il meurt sans Christ, c'est pour entrer dans des souffrances encore plus grandes que tous les malheurs de la terre réunis. Et cela est extrêmement important à considérer. Dire que la mort met un gain, ça n'est possible que pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, pour ceux dont Christ est la vie. Apocalypse chapitre 14, verset 13 dit ceci, « J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Notez bien, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Il n'y a que deux manières de mourir.
que deux, uniquement deux, on meurt soit en Christ, on meurt soit sans Christ. Ceux qui meurent en Christ ont la certitude que la mort est un gain parce qu'ils verront Christ. Mais ceux qui meurent sans Christ ont aussi la certitude que la mort ne sera pas un gain parce que ce sera pour l'éternité l'ouverture des souffrances les plus terribles, les plus conscientes, les plus grandes. Et donc, si vous êtes là ce matin, que vous n'êtes pas en Christ, c'est aujourd'hui qu'il faut vous tourner vers lui. Ce passage que nous avons lu nous vous invite à vous tourner vers lui, à lui faire confiance. C'est un appel. Tant que l'on vit sur cette terre, eh bien, on a la possibilité de venir à Christ. Alors, je crie de tout mon cœur, je vous dis, venez à Christ. Venez à lui. Placez votre confiance en lui. Pour qu'il vous sauve. Et qu'il fasse de vous son enfant. Ainsi, vous pourrez dire, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais il faut venir à lui. Que ce texte ne vous laisse pas insensible. Et si nous appartenons à Christ, eh bien, soyons honnêtes de considérer notre propre vie et ce qui fait actuellement peut-être l'objet de notre vie. Ça peut être quelque chose de bien, mais si ce n'est pas Christ, ça n'est pas notre affection n'est pas placée au bon endroit. Que le Seigneur, demandons au Seigneur sa grâce et son pardon afin de vivre une vie qui l'honore, à l'image de celle qu'a vécue l'apôtre Paul. Prions. Merci Seigneur pour ta parole et pour cette perspective que tu nous donnes à travers elle sur la vie et sur la mort. Et je te prie de corriger nos pensées, de rediriger nos affections, afin qu'elle puisse être placée en toi. Donne-nous un amour véritable dans notre cœur, un amour grandissant chaque jour, de plus en plus, pour toi, pour nos frères et sœurs. Et Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que, dans ta grâce, tu touches, que tu attires les cœurs qui ne sont pas à toi. Agis puissamment pour la gloire de ton nom. Amen.